Les séminaires du Collège de France.
Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour à celles et ceux qui étaient là ce matin. Bienvenue dans ce cinquième séminaire de la série Droit international des régions. C'est mon grand plaisir cet après-midi d'accueillir un ami et collègue, Nicolas Levrat, qui est professeur ordinaire de droit européen et international à la faculté de droit de l'Université de Genève. Qui est donc, qui a le tort, comme moi, d'être suisse roman ou francophone de Suisse. Il a été directeur de l'Institut européen, où on s'est rencontrés d'ailleurs à l'époque, et ensuite du Global Studies Institute à l'Université de Genève, qu'il a contribué à faire rayonner en ce qu'il est devenu aujourd'hui. En parallèle de sa charge académique, Nicolas Levrat a été nommé en 2023 par le Conseil des droits de l'homme en tant que rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités. Il nous parlera en partie de cette question aujourd'hui. Nicolas Levrat est spécialiste du droit de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, et plus spécialement du fédéralisme européen, des droits des minorités, du droit global et des relations entre les systèmes juridiques. Et il s'intéresse depuis toujours au statut des collectivités publiques et notamment des régions en Europe. C'était donc, vous le voyez, la personne parfaite, idéale, à inviter pour ce séminaire. Donc je suis très heureuse qu'il ait accepté notre invitation. Alors, en s'appuyant sur ses nombreuses années d'expertise dans tous les domaines que j'ai mentionnés et sa position actuelle de rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités, Nicolas Levrat nous propose cet après-midi une conférence sur le thème « L'universalité des droits de l'homme à l'épreuve de la régionalisation, réflexion à partir des droits des minorités ». Donc un grand merci, cher Nicolas, d'avoir accepté cette invitation. Nous avons tous hâte de t'entendre. Merci.
Merci beaucoup, Samantha, pour l'invitation et ces mots aimables d'introduction. Effectivement, nous sommes tous deux Suisses francophones, donc à ce titre-là, partie d'une minorité linguistique, mais contrairement à la plupart des autres minorités, il faut dire que c'est une minorité qui est assez peu discriminée et qui a un statut relativement favorable, voire même enviable, ce qui me donne une certaine liberté pour traiter de ces questions dans le cadre onusien. Et effectivement, au-delà de mon expérience académique, c'est la pratique dans le cadre des Nations Unies et les expériences que je peux vivre avec ce mandat. Peut-être que vous n'êtes pas très au courant de ce statut un peu particulier de rapporteur spécial. Nous sommes une soixantaine de rapporteurs spéciaux nommés par le Conseil des droits de l'homme, environ 46 sur des questions thématiques, comme par exemple les minorités, et une quinzaine, 14 actuellement, sur des situations spécifiques dans des pays où les droits de l'homme sont en souffrance. Et à ce titre-là, nous avons le devoir, parmi plusieurs autres tâches, de présenter des rapports au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale de l'ONU chaque année. Un au Conseil des droits de l'homme, j'ai fait ça il y a 2 semaines, un à l'Assemblée générale de l'ONU, et il y a un dialogue interactif avec les États membres sur ces questions-là. Et ce qui me frappe depuis une année et demie que j'occupe ce mandat, c'est effectivement l'isolement sur le domaine des droits de l'homme des Occidentaux. Et je dois dire que ça s'est encore beaucoup aggravé depuis l'arrivée à la Maison-Blanche d'un certain Donald Trump, non seulement parce que la situation des droits de l'homme aux États-Unis est en train d'empirer, parce que les États-Unis ne participent plus aux séances du multilatéralisme, mais ils ont aussi remis le pied à l'étrier à la Fédération de Russie, qui est extrêmement agressive et critique considérablement l'Occident. Il y a donc du Occident bashing, hein, comme on dit en anglais, du dénigrement de l'Occident. Et évidemment, c'est assez problématique. Et c'est pourquoi j'ai proposé comme thème de cette séance une question un peu provocatrice, mais qui me paraît importante, à savoir, faut-il défendre l'universalisme des droits de l'homme ou peut-on admettre qu'il faut une régionalisation des droits de l'homme, des droits humains? Ou peut-on, peut-être, concilier les deux? Alors, c'est évidemment des propos qui peuvent, dans certains milieux, être considérés comme polémiques. J'ai plusieurs ambassadeurs européens qui sont venus se plaindre auprès de moi, que je ne défendais pas cette conception classique de l'universalisme des droits de l'homme. Je pense que c'est pas viable de s'arc-bouter à la défense de cette conception et que nous aurions tout intérêt à trouver autre chose. Ceci étant, par les temps très difficiles que nous vivons et les atteintes nombreuses, y compris dans les pays européens, à la liberté d'expression et liberté académique, j'aimerais vous rappeler, et les connaisseurs reconnaîtront rapidement d'où vient cette citation, que, je cite, « la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun, sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique. » J'imagine que ceux qui sont un peu familiers avec les droits de l'homme auront reconnu un fameux arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Handyside, hein, où la Cour, justement, disait « la liberté d'expression, c'est aussi la possibilité d'explorer des questions qui ne font pas l'unanimité ». Je pense que c'est encore plus important dans un cadre académique, et je suis navré d'avoir à prononcer ces mots ici, parce que je sais que le Collège de France est un haut lieu de la pensée, y compris une pensée non conventionnelle, mais nous vivons les temps que nous vivons, et il est vrai que pour l'expression d'idées assez claires et défendables, même si on peut aussi y objecter, pas mal de collègues se retrouvent attaqués pour toutes sortes de présupposés. Et donc, évidemment, mon but n'est pas d'être attaqué, mais de regarder lucidement ces questions et, le cas échéant, d'avancer des propositions qui ne feront pas l'unanimité. Alors, pour traiter mon sujet, je propose trois questions et j'essaierai de terminer par une proposition. Je pense que ça va assez dans la même direction de ce qu'essaye de présenter la professeure Besson, cette idée d'une reconstruction du système international. Il faut dire que, en cette année 2025, il est plausible que nous assistions à la fin non seulement de cette période intéressante et enthousiasmante pendant laquelle on a cru qu'une sorte d'ordre libéral international allait s'imposer, grosso modo 1989 à nos jours, mais aussi à la fin, très vraisemblable, hélas, du système multilatéral tel qu'il a été mis sur pied à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mes trois questions sont les suivantes. D'abord, que signifie l'universalisme des droits de l'homme? Deuxièmement, dans une logique universaliste, est-ce que cela veut dire que tous les droits de l'homme doivent s'appliquer à tous les êtres humains, sans distinction, une sorte d'effet uniforme, comme on dirait en droit de l'Union européenne, donc que ça produit les mêmes effets partout. Évidemment, dans cette deuxième question, il y a deux sous-questions, une qui concerne tous les droits fondamentaux et l'autre qui concerne de les appliquer à tous les êtres humains ou pas. Et puis, troisième question, les droits de l'homme sont-ils universels, naturels ou occidentaux? Et puis, je viendrai de manière un peu plus optimiste avec une proposition pour une approche d'un probablement néo-universalisme des droits fondamentaux, des droits de l'homme, ou pour des droits de l'homme pluriversels. J'ai vu que dans les thèmes traités, l'approche pluriverselle avait déjà été soulevée, donc ceux qui suivent régulièrement le cours et le séminaire, vous ne serez pas surpris de tout cela. Alors, première question. Que signifie l'universalisme, ce caractère universel des droits de l'homme? Je m'appuie ici sur les travaux fort intéressants d'une historienne, Lynn Hunt, qui notamment en 2008 a publié un ouvrage très intéressant qui s'appelle « L'invention des droits de l'homme ». C'est un ouvrage qui a été publié en anglais, qui a été heureusement traduit en 2013, donc il existe en français. Et elle nous explique que ce débat sur le caractère universel des droits de l'homme avait affaire non pas à savoir si les droits pouvaient s'appliquer dans différents contextes, différentes cultures ou autres, mais simplement à savoir est-ce que les droits devaient s'appliquer à tout le monde ou est-ce qu'il y avait des différenciations des groupes qui auraient l'entièreté de ces droits fondamentaux et d'autres groupes qui auraient des parties plus réduites de ces droits fondamentaux. Et l'idée, évidemment, c'était d'évoluer d'une conception où il y avait une concession qui était faite par le pouvoir, par le souverain, à certains groupes, hein, et elle remonte jusqu'à la Magna Carta de 1215, où ce sont des seigneurs, des barons, hein, qui se voient octroyer des droits par la couronne britannique, en échange évidemment d'un soutien, d'argent, etc. Mais donc c'est seulement ceux-là qui reçoivent des droits, ce n'est pas tous les individus. Et derrière ce débat sur l'universalisme, c'était vraiment la question, est-ce que tous les individus vont bénéficier des droits ? Alors c'est un débat qui a notamment beaucoup eu lieu dans les colonies américaines dès leur émancipation, donc fin du XVIIIe, après 1776. Et on se rappelle qu'une partie de ces colonies américaines pratiquait l'esclavage, hein, et que donc le débat, évidemment, est plus théorique que pratique. On sait que l'abolition de l'esclavage était complexe aux États-Unis d'Amérique. Il a fallu une guerre civile, hein, pour faire avancer les choses. Donc c'est évidemment un débat assez théorique à cette époque. L'idée étant quand même que, sur le principe, les droits bénéficient à tous, même si on pouvait admettre des exceptions. De manière intéressante, les Français, en 1789, avec la Déclaration, hein, des droits de l'homme et du citoyen, font déjà une distinction. Hein. Il y a des droits qui appartiendraient à tous les êtres humains ou à tous les hommes. Mesdames, désolé, il y avait aussi une grande différence entre les droits qui étaient reconnus aux hommes et aux femmes à l'époque, et puis des droits de citoyenneté qui appartenaient à seulement certaines personnes. Donc l'idée du caractère universel des droits de l'homme, c'est pas l'idée qu'ils ont été approuvés par l'ensemble des différents peuples qui y sont soumis, mais que, en principe, ces droits s'appliquent à tout le monde. Encore une fois, on peut se poser des questions sur l'effectivité de cet universalisme des droits fondamentaux. En Europe, on a... J'ai entendu parler ce matin d'un pacte migratoire. Les migrants jouissent-ils des droits fondamentaux tels que définis dans les traités au fondement de l'Union européenne, dans la Charte des droits fondamentaux? On peut se poser la question. Généralement, quand on me demande de faire une conférence sur ce sujet-là, je commence par lire l'article 2, dont la première valeur de l'Union européenne est la dignité humaine. Et généralement, je m'arrête là, parce qu'on voit bien que le respect de la dignité de ces personnes n'est pas le principal souci des Européens. Donc, le caractère universel, c'est quand même l'idée, même si ce n'est pas effectif, que tous les individus bénéficient des droits, et non pas l'idée que ces droits procèdent de toutes les traditions juridiques, culturelles, etc. Donc, le soupçon d'occidentalisme peut rester. Deuxième question, si on admet cet universalisme, est-ce que tous les droits fondamentaux, les droits de l'homme, s'appliquent à tous les êtres humains? Et là-dedans, il y a deux sous-questions, me semble-t-il. La première, c'est est-ce que les droits de l'homme, génériquement, s'appliquent à tous les êtres humains, de manière plus ou moins uniforme? Ou, deuxième question, est-ce que tous les droits de l'homme doivent s'appliquer à tous les êtres humains? Ou est-ce qu'il peut y avoir des choix, des catégories, des hiérarchies entre les droits de l'homme? De fait, un des enjeux, évidemment, de cette universalité des droits de l'homme, c'est aussi lorsque un droit de l'homme détenu par un individu s'oppose à un autre droit de l'homme détenu par un autre individu. Comment est-ce qu'on gère ces conflits entre droits de l'homme, même s'ils sont universels? On sait, par exemple, si on prend les enjeux du droit de la propriété, qui est considéré comme un droit de l'homme, et du droit à la santé, on voit bien que les enjeux de propriété intellectuelle sur un certain nombre de médicaments, etc., portent lourdement atteinte au droit à la santé des populations des pays moins riches, voire des pays riches. Ça dépend des systèmes sociaux. Donc on voit bien qu'il peut y avoir conflit entre les droits fondamentaux. Donc c'est une deuxième sous-question. Mais traitons d'abord de la première. Est-ce que les droits de l'homme s'appliquent uniformément à tous les êtres humains ? Et là-dessus, ben, je pense qu'il faut revenir à ce texte fondateur de la conception contemporaine des droits de l'homme universel, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, on peut lire, je m'excuse de répéter, mais ça fait des fois du bien de savourer ces textes qui sont fort bien écrits et importants. L'article 1er de la Déclaration, hein, qui nous dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Donc on voit bien, hein, c'est tous les êtres humains, c'est une conception très large. Et cela est confirmé par l'article 2 de la Déclaration qui a trait à ce qu'on appelle le principe de non-discrimination. La non-discrimination, telle que définie à l'article 2, nous dit « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » Donc là, on a vraiment de nouveau la confirmation que chacun ou chacune, j'imagine, peut se prévaloir de ses droits et que donc il n'y a pas de distinction et même que c'est interdit de faire des distinctions selon les critères qui sont énoncés à l'article 2. Et en fait, c'est en grande partie de là que part ma réflexion sur l'universalisme des droits fondamentaux, parce que parmi les critères mentionnés dans cet article 2, notamment la question de la race, aujourd'hui on parle d'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, les religions, ça correspond assez largement à ce qui concerne la protection des minorités, tâche qui m'a été confiée par le Conseil des droits de l'homme. Et en fait, peu de gens le savent, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est seulement une partie d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a été adoptée le 10 décembre 1948, pas loin d'ici d'ailleurs, hein, au palais de Chaillot, et qui s'appelle la Charte internationale des droits de l'homme. Et cette Charte internationale des droits de l'homme, elle a quatre parties. La première est donc la Déclaration universelle, celle qui a fleuri et qui fonde, encore une fois, notre conception contemporaine des droits de l'homme universel. Mais la troisième partie de cette déclaration concerne le sort des minorités. Et cette troisième partie se lit comme suit, elle n'est pas très longue, rassurez-vous. Il y est dit, je cite, « L'Assemblée générale, considérant que les Nations unies ne peuvent pas demeurer indifférentes au sort des minorités, tant mieux, c'est pas dans le texte, considérant qu'il est difficile d'adopter une solution uniforme de cette question complexe et délicate qui revêt des aspects particuliers dans chaque État où elle se pose, je m'y retrouve. Considérant le caractère universel de la Déclaration des droits de l'homme, décide de ne pas traiter par une disposition spécifique dans le corps de cette déclaration la question des minorités. Donc en fait, la protection des minorités ne fait pas partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce n'est pas une interprétation, c'est explicitement dit dans cette résolution qu'on est... Alors, on n'est pas en dehors de la protection des droits de l'homme, puisqu'on est dans la charte internationale des droits de l'homme, mais on n'est pas dans la protection universelle. Même si, toujours dans cette même résolution, l'Assemblée générale poursuit et demande au Conseil économique et social de confier à la Commission des droits de l'homme et même à sa sous-commission de la lutte contre les mesures de discriminatoires et de la protection des minorités, de procéder, je cite, à un examen approfondi du problème des minorités afin que l'Organisation des Nations unies puisse adopter des mesures effectives de protection des minorités raciales, nationales, religieuses et linguistiques. Donc, de fait, ce que nous disent les textes, c'est que malgré le caractère universel de la protection des droits fondamentaux, il peut y avoir des cas où il faut des mesures spécifiques et que ces cas sont additionnels à ce principe de non-discrimination qui est prévu à l'article 2 de la Charte. Pourquoi ? Eh bien, parce que le principe de non-discrimination a deux faces. La première face, la plus évidente, la plus connue, c'est effectivement de ne pas traiter différemment des personnes qui se trouvent dans des situations semblables. Et comme tous les êtres humains sont libres et égaux, en principe, tous les êtres humains se trouvent dans des situations semblables. Mais le revers, si j'ose dire, l'autre face du principe de discrimination, c'est aussi de ne pas traiter de manière similaire des personnes qui sont dans des situations différentes. Cela constituerait une discrimination. Et cela n'est pas très ancré dans la culture de la protection des droits fondamentaux, que ce soit la culture universelle ou même, au niveau régional, la culture européenne. Ainsi, je vais vous donner un exemple d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été rendu en novembre 2023 dans une affaire qui oppose une famille, la famille Djibouti et d'autres familles d'ailleurs, mais c'est la première, à l'État de Lettonie, et dans laquelle ces personnes se plaignent que le droit à l'éducation de leurs enfants a été violé par la législation lettonne. Et dans cet arrêt, la Cour, se fondant uniquement sur la dimension négative du droit à la non-discrimination dans l'exercice des droits humains garantis par la CEDH, a été conduite à approuver une situation de discrimination flagrante en ce qui concerne l'exercice du droit à l'éducation par des personnes appartenant à des groupes minoritaires. Dans cette affaire, les requérants se plaignaient qu'à la suite de la réforme de 2018 de la loi lettonne sur l'éducation, la proportion des matières devant être enseignées dans la langue de l'État, c'est-à-dire le letton, ait été augmentée pour les écoles privées, on ne parle pas des écoles publiques, avec la conséquence que l'utilisation de la langue russe comme langue d'enseignement est réduite à une portion congrue. Et les plaignants, donc c'est les parents au titre de leurs enfants, faisaient notamment valoir que la réforme avait des conséquences discriminatoires pour les élèves dont la langue maternelle était le russe et partant entraînait une discrimination de leur droit à l'éducation tel que consacré par l'article 2 du premier protocole à la Convention européenne des droits de l'homme et tel que protégé en principe par l'article 14 de cette même convention qui en principe interdit les discriminations. Mais encore une fois, on va voir que ce n'est que l'interdiction négative des discriminations. Et donc, la Cour en cette matière raisonne comme suit, je cite la Cour. En fonction du contexte dans lequel l'article 14, donc relatif à la non-discrimination, l'article 14 est invoqué, la Cour peut examiner les allégations de discrimination sous différents angles. D'un côté, on peut soutenir que l'État a l'obligation positive de traiter différemment les différents groupes d'élèves, principalement en raison du fait que leur langue maternelle est différente. Ah, bien. D'un autre côté, on peut soutenir que tous les élèves, quelle que soit leur langue maternelle, se trouvent dans une situation similaire dans la mesure où ils souhaitent avoir accès à l'éducation dans un pays donné. Bien que ces deux aspects soient si étroitement liés qu'on pourrait dire que ce sont les deux faces d'une même médaille, la Cour estime que la présente affaire doit être examinée sous le second angle, c'est-à-dire sous l'angle du droit général d'accès au système éducatif en Lettonie, étant donné que le droit interne n'accorde de statut particulier à aucune autre langue que le letton, que la Convention ne contient pas de dispositions spécifiques sur les droits des minorités et que les requérants invoquent l'article 2 du protocole 1, lequel ne prévoit pas de droit d'accès à l'éducation dans une langue particulière. Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans cet extrait de la décision de la Cour, c'est que la Cour reconnaît que, en fait, les deux approches peuvent être utilisées et qu'on est face à un problème de discrimination. Mais, sans justification apparente, si ce n'est qu'il n'y a pas de disposition spécifique, et donc, effectivement, le principe négatif de non-discrimination qui se trouve dans l'article 14 n'est pas suffisant, puisque la Cour dit, à mon avis, pas de discrimination. Alors que du point de vue du droit des minorités, il y a clairement discrimination. Hein, la langue maternelle, ce n'est pas une langue que vous choisissez, c'est une langue qui fait partie de votre personne Et si vous êtes égal en dignité et en droit, il paraît difficile d'admettre que vous ne puissiez pas apprendre dans la langue qui vous est transmise par votre mère. C'est pas la langue des parents, c'est la langue maternelle, pour toutes sortes de raisons historiques, je ne rentre pas dans les détails. Donc, cette affaire, me semble-t-il, montre en quoi la dimension négative de la non-discrimination n'offre pas aux personnes appartenant à des groupes minoritaires une garantie suffisante de l'égalité d'exercice des droits humains. Les personnes appartenant à des minorités ne sont pas dans la même situation que celles qui appartiennent à la majorité ou au groupe dominant de la société. Par conséquent, pour jouir de leurs droits humains sur un pied d'égalité avec les autres, ces personnes doivent être traitées à la fois de la même manière que les personnes appartenant au groupe majoritaire ou dominant, mais différemment d'elles, de façon à ne pas subir de discrimination de fait. Cela découle de la nécessité d'appliquer simultanément les principes d'égalité et de non-discrimination. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'elles doivent à la fois être traitées de manière équivalente et de manière différenciée ? Parce que dans le droit positif, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, il y a un article, l'article 27, qui concerne la situation des minorités. Et cet article dit que dans les pays où il y a des minorités, celles-ci ne doivent pas être traitées de manière discriminatoire. Et le Comité des droits de l'homme, c'est donc un organe institué par ce traité de 1966, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, a rendu un commentaire général sur l'article 27 et a très clairement dit que les minorités n'avaient pas des droits différents qui se substitueraient aux droits communs, c'est-à-dire au principe d'égalité et de non-discrimination, mais qu'elles pouvaient avoir des droits additionnels pour tenir compte de leur situation particulière. Pour donner un autre exemple, il est clair que l'accès pour les personnes handicapées à certains bâtiments publics impose effectivement au pouvoir de prendre des mesures particulières pour ces personnes. Il ne suffit pas de dire « bah oui, la porte est ouverte, si elles veulent accéder, elles peuvent accéder comme tout un chacun ». Non, de fait, elles sont dans une situation différenciée qui font que pour qu'elles puissent accéder, il faut aménager spécifiquement les droits. Donc, de fait, on a une différenciation qui est possible dans le cadre de l'universalisme. Et alors là, on est à l'intérieur d'un État, avec des personnes de situations différentes, mais est-ce qu'entre des États, qui eux-mêmes sont dans des situations très différentes, en termes socio-économiques, en termes culturels, en termes géographiques, un État archipélagique, c'est pas la même chose qu'un État qui a des parties de plaine, des parties de très hautes montagnes, donc même la géographie joue son rôle. Est-ce que cette spécificité qui existerait en différents États ne doit pas aussi être prise en compte dans la conception de l'universalisme des droits fondamentaux, et donc ceux-ci devraient pouvoir être adaptés en fonction des situations différentes? Est-ce que cela serait contraire à l'universalisme ? Pas sûr. En fait, les penseurs libéraux, à qui on doit cette idée des droits fondamentaux, des libertés, sont aussi attachés à ce qu'on appelle une liberté collective, et qui est traduite aujourd'hui dans le droit positif, le droit international, par ce droit des peuples à l'autodétermination, dont notamment la professeure Besson a parlé ce matin dans son cours, et qui est un droit tout à fait important et qui structure notre société internationale. Et ce droit figure non seulement dans l'article 1er de la Charte des Nations Unies, ça a l'air important si c'est dans l'article 1er, mais a aussi été codifié dans les deux pactes de 1966, à la fois le pacte relatif aux droits civils et politiques et le pacte sur les droits socio-économiques et culturels. C'est le seul article, d'ailleurs, que l'on trouve dans les deux pactes. Là aussi, universalisme, si l'on veut, mais il y avait quand même une conception différenciée des droits fondamentaux entre les pays libéraux, occidentaux, et les pays socialistes. J'y reviendrai. Et donc, cet article commun aux deux pactes de 1966, de manière intéressante, de manière structurelle, si on fait une analyse juridique systématique, ne sont pas dans la partie 2 où l'ensemble des droits que ce soit les droits individuels dans le pacte sur les droits sociaux, sur les droits civils et politiques, ou des droits plus complexes dans le pacte sur les droits sociaux, économiques et culturels, cet article commun est situé en tête des deux pactes. Et là aussi, le Comité des droits de l'homme, qui lui n'est compétent que pour le pacte relatif aux droits civils et politiques, a eu l'occasion en 1984 de rendre un commentaire général sur cet article premier. De nouveau, que sur celui du pacte relatif aux droits civils et politiques formellement, mais puisque c'est le même texte, on peut imaginer que ça dit la même chose. D'ailleurs, le comité va le dire. En effet, je cite ce commentaire général. Donc les commentaires généraux, c'est ces organes des traités qui ont un pouvoir d'interprétation des traités, soit sur des cas particuliers, notamment lorsqu'ils sont saisis d'une plainte ou lorsqu'ils font des revues périodiques de la mise en œuvre des traités, mais qui peuvent aussi, basés sur leur expérience de cas particuliers, faire ce qu'on appelle des commentaires généraux qui donnent une interprétation à peu près authentique du texte du traité. Et donc, le Comité des droits de l'homme en 1984 dit, je cite, « Conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, l'article 1er du pacte relatif aux droits civils et politiques reconnaît à tous les peuples le droit de disposer d'eux-mêmes. Ce droit revêt une importance particulière parce que sa réalisation est une condition essentielle de la garantie du respect effectif des droits individuels de l'homme, ainsi que de la promotion et du renforcement de ses droits. » C'est pour cette raison que les États ont fait du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dans les deux pactes, une disposition de droit positif qu'ils ont placé en tant qu'article premier, séparément, en tête de tous les autres droits énumérés dans ces pactes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, c'est dans le cadre national que doivent être matérialisés et respectés, protégés, les droits fondamentaux, ces droits universels, et que donc, sauf à postuler que, en raison de l'exigence de l'universalité des droits de l'homme, tous les États doivent avoir le même système politique, eh bien, on va avoir de la différenciation reconnue par les droits de l'homme universels, puisque dans les deux pactes, on a cet article qui fait référence au principe d'autodétermination, et que donc la variation de la mise en œuvre des droits fondamentaux dans des cadres nationaux différents n'est pas contraire au principe universel. Quelque part, on a une logique que l'on peut appeler de nationale et qui s'opposerait à une logique cosmopolitique des droits fondamentaux en disant, finalement, chaque individu a les mêmes droits et pourrait les faire valoir de la même façon où qu'il se trouve et quelle que soit son origine, sa nationalité, etc. Ce n'est pas la réalité de l'universalisme des droits de l'homme et cela est reconnu par le droit positif. Et évidemment, cela va nous amener à la deuxième sous-question. Est-ce que tous les droits fondamentaux doivent être peuvent être invoqués par toutes les personnes dans tous les contextes ? Ou bien est-ce que on peut concevoir que il y ait une hiérarchie dans les droits fondamentaux, que certains droits fondamentaux puissent être évoqués dans certains contextes, dans certains pays, et pas d'autres. Et à l'inverse, dans d'autres pays, on préfère une autre hiérarchie des droits fondamentaux. Alors, de manière intéressante et à contrario, j'aimerais citer quelqu'un bien connu dans cette maison, Mireille Delmas-Marty, qui a beaucoup travaillé sur le droit pénal international, notamment, et qui dit, je cite, « Il y a des matières, y compris dans le domaine de la protection des droits de l'homme, où l'on a parfois besoin de règles identiques. Le crime contre l'humanité en est précisément l'exemple. » Donc, à contrario, évidemment, elle dit, bah oui, dans le domaine des droits de l'homme, on n'a pas toujours besoin d'avoir des règles identiques. Ils restent universels, mais peuvent être différenciés selon le contexte, selon la manière dont ils sont mis en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui correspond notamment à la conception libérale des droits fondamentaux, qui défend l'universalisme, mais dans un cadre national. Si on pense à un grand penseur du libéralisme de la fin du siècle dernier, je pense à John Rawls, dans sa théorie de la justice, publiée en 1971, très clairement, il dit qu'il y a deux principes qui ordonnent les sociétés libérales. Le premier principe, c'est le respect des libertés. Et le deuxième principe, qui est subordonné au premier, c'est la question de la justice distributive. Donc il y a clairement une hiérarchie. Ça n'empêche pas qu'il défende l'universalisme des droits fondamentaux, mais dans un cadre national. D'ailleurs, le même John Rawls, beaucoup plus tard, en 1999, publie un ouvrage sur le droit international qui s'appelle « The Law of the Peoples », dans lequel il insiste sur l'importance de ces cadres nationaux et sur le fait, d'ailleurs beaucoup de libéraux vont le lui reprocher, que dans la société des nations, on peut avoir des États qui ne sont pas des États libéraux, qui sont des États décents et qui ont une autre forme d'organisation de la société. Donc, évidemment, tout en conservant ce discours sur l'universalisme, on peut admettre que, selon les préférences, on ait une hiérarchisation des droits et que lorsque deux droits rentrent en concurrence, on favorise plutôt l'un que l'autre. Évidemment, personne, à part les cosmopolitiques, n'accuse John Rawls d'être anti-universaliste des droits de l'homme. Quand le Parti communiste chinois dit le premier des droits fondamentaux, c'est le droit au développement, c'est le droit de manger à sa faim, c'est le droit d'être éduqué, c'est le droit d'avoir des opportunités économiques, et donc, effectivement, c'est plus important pour nous que les libertés fondamentales, par exemple la liberté d'expression, par exemple le multipartisme. Évidemment, c'est aussi une hiérarchie entre des droits fondamentaux et entre nous soit dit, dans les droits socio-économiques, les États libéraux ne sont pas toujours irréprochables. Et effectivement, il y a ce choix de hiérarchie, même si en 1993, il y a un sommet de l'ONU qui se tient à Vienne sur les droits fondamentaux et qui dit que tous les droits fondamentaux sont de même nature et sont égaux. Sauf que quand il y a tension entre deux droits fondamentaux, évidemment, il faut la régler. On a eu des exemples intéressants et controversés. Par exemple, lorsque, en septembre 2001, les États-Unis sont victimes d'attaques, d'actes terroristes, ils décident unilatéralement de supprimer un grand nombre de libertés, en tout cas un certain nombre de personnes, au profit d'une approche sécuritaire. Est-ce compatible avec l'universalité des droits de l'homme? Question ouverte. Question intéressante parce que la même question se pose en Europe. Et la réponse européenne est plus intéressante. Pas forcément moins hypocrite, mais plus intéressante. En 2005, après des années de négociations, dans le cadre du Conseil de l'Europe, est adoptée une convention sur la prévention et la répression du terrorisme. Et cette convention dit d'emblée, dans son premier article, que le premier droit fondamental dont les États ont la responsabilité, c'est de garantir le droit à la vie des individus. Et que donc, si effectivement certaines activités qui s'appuient sur d'autres droits fondamentaux mettent en jeu la vie des individus, alors l'État peut limiter ces autres droits fondamentaux parce que le premier, c'est le droit à la vie. Donc, très clairement, l'universalisme ne s'oppose pas à une mise en œuvre différenciée, à une hiérarchisation des droits fondamentaux, même si après, on peut poser des questions en termes de légitimité, que ce soit pour une approche libérale, dure, qui ne fait pratiquement pas de place aux droits socio-économiques, ou que ce soit pour une approche, j'hésite à dire socialiste, parce que même si le Parti communiste chinois s'appelle communiste, on voit bien que c'est une interprétation assez particulière du socialisme qu'il propose. Mais enfin, là aussi, il y a une hiérarchisation très claire et qui est difficilement justifiable si elle conduit à supprimer certains droits fondamentaux. Donc il y a probablement une échelle possible, mais il faut qu'il y ait une partie de chacun des droits fondamentaux qui reste en vie. Donc on le voit, dans ce paradigme des droits de l'homme universels, il y a quand même pas mal de flexibilité. Que ce soit pour les personnes en situation différente à l'intérieur des États, les minorités, que ce soit entre États, on s'accommode d'un universalisme à géométrie variable. Ce qui m'amène à ma troisième question. Les droits de l'homme sont-ils naturels d'abord, universels ou occidentaux ? Et encore une fois, si je me pose la question, c'est pour des raisons très pratiques, parce que, en tant qu'homme blanc occidental, lorsque je prends la parole aux Nations Unies, je suis attaqué, non légitime, parce qu'occidental, et parce que mâle, etc., etc. Donc, il y a un enjeu, hein, au-delà de l'enjeu purement théorique, qui est un enjeu tout à fait pragmatique. Est-ce que cet universalisme tel qu'on prétend le défendre n'est pas contre-productif dans le cadre actuel de la société internationale ? Alors d'abord, est-ce que les droits de l'homme sont naturels ? Là encore, je reviens aux travaux de Lynn Hunt, qui montre qu'en fait, cette insistance pour dire que les droits de l'homme sont naturels, et c'est un peu ce qu'on retrouve à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que les droits fondamentaux, les droits de l'homme, seraient inhérents à la personne humaine. Ce qui est important derrière cette idée, c'est que les droits de l'homme ne sont pas concédés, comme c'était le cas historiquement par un souverain, ne sont pas donnés par une législation ou autre, les droits de l'homme appartiennent aux individus. Alors c'est vrai pour certains droits fondamentaux, c'est probablement pas vrai pour tous les droits. Évidemment, le droit à la propriété, c'est pas un droit qui est inné à la personne, hein, il doit être organisé. Il y a des législations qui organisent, qui protègent la propriété dans certaines circonstances, qui limitent peut-être l'usage du droit de propriété, etc. On voit bien que le droit de propriété, c'est pas un droit naturel. Je renvoie à un autre Genevois, Jean-Jacques Rousseau, hein, qui a des pages magnifiques sur la naissance de l'inégalité liée au droit de propriété. Mais ce n'est pas l'objet ici de ma conférence. On voit le droit de vote. Hein, c'est un droit qui aussi doit être organisé. Il n'est pas inhérent. C'est une question tout à fait légitime. Pourquoi un jeune de 16 ans n'a pas le droit de voter ? C'est une discrimination. Si le droit est naturel et appartient à toute personne, ben oui, 16 ans, même 12, même 6, même 4, même 2. Alors peut-être, d'ailleurs, ça serait une idée. Hein. On sait que dans nos sociétés, les personnes âgées pèsent d'un poids disproportionné dans les choix démocratiques. C'est leur droit. Hein. Ils vont voter, les plus jeunes ne vont pas voter. Mais peut-être que si les parents avec une famille de 3, 4 enfants avaient aussi la possibilité de voter au nom de leurs enfants, on rééquilibrerait la balance. Tout ça, c'est des questions très débattues. Mon but n'est pas de les débattre ici, c'est juste de montrer que, évidemment, tous les droits ne sont pas naturels. Certains, probablement, le sont, mais il y a un développement assez important des droits et que beaucoup de droits fondamentaux sont des droits qui doivent être vus en concept, en contexte, pardon. Et donc, naturels en partie, mais pas fondamentalement. Ce qui nous ramène alors à l'origine de ces droits fondamentaux. Sont-ils vraiment universels, comme on aime à le dire en Occident, ou sont-ils occidentaux, comme le reste du monde aime à nous le renvoyer à la figure ? En fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme est moins occidentale qu'il n'y paraît. Ce n'est pas de la paresse intellectuelle, mais je me suis rappelé d'une brève contribution qu'avait faite une ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, sur la mondialisation. Et comme elle a une plume qui dépasse largement mes capacités, je me permets de la citer. C'est fort bien dit. Elle regarde donc ce qui se passe au moment. Elle regarde l'évolution du droit. Effectivement, la professeure Besson en a parlé, ce caractère quand même occidental, européen du droit international. Et là, elle dit, après la Deuxième Guerre mondiale, je cite, « Le monde sort abasourdi de ce chaos meurtrier. Le traumatisme est commun et transversal. Il faut cette fois sérieusement sauvegarder l'avenir. Et c'est avec une fébrilité à la fois inquiète et déterminée que les nouveaux puissants du monde s'installent autour de tables à palabres, à proclamation et à rédaction. Dans ce nouvel ordonnancement du monde, les puissances victorieuses ont l'influence de leur poids économique et militaire, autant que de leur dynamisme et de leur vision impérialiste ou anti-impérialiste du monde, selon les régions géopolitiques. » Entre parenthèses, ça renvoie à beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Je continue. Ainsi, le passé affleurant de l'Empire soviétique se heurte déjà à l'arrogance jaillissante des États-Unis, tandis que la Chine, sûre de sa permanence civilisationnelle, pose placidement son empreinte sur ses agencements du monde. Autant la Russie n'a jamais cessé de bouillonner sous l'Empire soviétique, autant la Chine n'a jamais effacé ses certitudes d'immuabilité, y compris durant les années de suggestion occidentale. Elle apporte sa contribution sereine et détachée aux travaux de refonte et de reconstruction du droit international. Petite parenthèse, la Chine, à ce moment-là, ce n'est pas la Chine communiste, c'est encore la Chine qu'on appelle aujourd'hui nationaliste. Je ferme la parenthèse, je continue. Quant à l'Europe, ça c'est nous, peut-être commence-t-elle son introspection existentielle dans les termes posés par Paul Valéry, et elle cite Paul Valéry, qui dit « Va-t-elle garder sa prééminence dans tous les genres ? L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique ? Ou bien l'Europe restera-t-elle ce qu'elle paraît, c'est-à-dire la partie précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d'un vaste corps ?» Donc, comme je dis, j'aurais pas pu dire aussi bien, je me permettais de citer une personne qui d'ailleurs cite encore un autre auteur. Mais donc effectivement, cet universalisme que les Européens essayent de défendre est l'héritier d'un exceptionnalisme européen. Et dans un ouvrage fort intéressant, paru l'an dernier chez Albin Michel, Souleymane Bachir Diagne, l'ouvrage s'appelle « Universaliser », montre de manière tout à fait claire comment, au début du XIXe siècle, les philosophes occidentaux, et en particulier Hegel, construit une histoire de la philosophie qui exclut toute influence non occidentale, non européenne. Et c'est ce qui permettra, par exemple, à Edmund Husserl, presque un siècle plus tard, dans une conférence qu'il donnera à Vienne en 1935, à la Kulturbund, c'est une traduction libre, je cite Husserl qui dit « Il y a en Europe quelque chose d'insigne à quoi tous les autres groupes de l'humanité eux-mêmes sont sensibles, quelque chose qui, abstraction faite de toute utilité, les pousse à s'européaniser plus ou moins, alors que nous, si nous nous comprenons bien, nous ne nous indianiserons jamais. Je veux dire que nous nous sentons que l'humanité européenne possède de manière innée une entéléchie qui domine de part en part la transformation de la figure européenne et lui confère le sens d'un développement en direction d'un pôle éternel. » Cet argument que tous les peuples ont tendance, voire une volonté, assumée ou cachée, de s'européaniser, mais que les Européens ne vont pas s'indianiser, c'est malheureusement cette vision de l'universalisme que ces ambassadeurs européens me reprochent de ne pas défendre, et qu'ils défendent eux-mêmes, et qui ne me paraît pas soutenable. Pourquoi ? Parce que on défend là une vision de l'universalisme qui se base sur un surplomb d'une histoire européenne singulière qui a existé. Je rediscute pas l'histoire, il ne s'agit pas de la réécrire, mais c'est effectivement ce surplomb qui, si vous me permettez un mauvais jeu de mots, c'est ce surplomb qui plombe l'Occident. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense qu'on a le même surplomb avec la doctrine marxiste, qui est d'ailleurs d'origine européenne aussi, qui est un produit de l'histoire européenne et qui là aussi ne tient pas compte de la diversité des cultures, des traditions, des valeurs des différentes populations du monde. Et donc cette non-indianisation, non-sinisation, non-africanisation, etc., etc., de l'Europe, c'est cela qui, selon moi, fait obstacle à un véritable universalisme des droits de l'homme. Comme le disait Alioune Diop en ouverture du deuxième congrès des écrivains et artistes noirs qui s'est tenu à Rome en 1959, je le cite, « Il faut désoccidentaliser pour universaliser, tel est notre souhait. Pour universaliser, il importe que tous soient présents dans l'œuvre créatrice de l'humanité. » Donc effectivement, pas cette idée que c'est l'Europe qui est porteuse, qui est vecteur de cette humanité, pour des raisons que j'ai essayé très brièvement d'expliquer, mais que c'est au contraire ce foisonnement, cette diversité, ce qui va faire cette œuvre créatrice de l'ensemble de l'humanité et qui va apporter un néo-universalisme aux droits fondamentaux. Et donc, la bonne nouvelle, et là encore, ça va en partie dans le prolongement du cours qu'a donné ce matin la professeure Besson, même si j'ai rédigé mes notes avant d'entendre son cours. Je pense que cette désoccidentalisation ou déseuropéanisation, parce qu'on voit bien que l'Occident, il y en a une partie qui a plus l'air de soutenir grand-chose, on ne comprend pas très bien, mais enfin bon, là aussi c'est une petite parenthèse. Mais donc cette déseuropéanisation est peut-être rendue possible par la normalisation des Européens, et en particulier de l'Union européenne. Je me souviens qu'en 2005, avec Samantha Besson et un autre collègue, nous avions beaucoup réfléchi sur cette idée des valeurs européennes. Ça me posait beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut mettre des valeurs dans un traité de droit positif? Est-ce que c'est vraiment des valeurs européennes, etc. Mais quelque part, en rapatriant comme valeurs européennes ces valeurs que l'Europe a longtemps promues comme universelles, via ce qui est maintenant l'article 2 du traité sur l'Union européenne, peut-être que l'Europe permet et se permet de participer à ce débat, à cette construction plurielle d'un véritable universalisme, dont elle ne serait pas l'unique porteuse, mais elle serait porteuse de valeurs qui sont des valeurs européennes. Alors évidemment, il y a des éléments compliqués, hein, parce que notamment dans l'article 2 du traité sur l'Union européenne, il y a la question du respect des droits de l'homme. Et évidemment, il y a un risque de boucle étrange, hein, strange loop, c'est-à-dire que si c'est une valeur européenne et universelle, alors est-ce qu'on ne va pas avoir un effet au niveau du son, on parle d'un effet Larsson, c'est-à-dire que vous avez l'amplification qui se réamplifie, etc., puis à un moment, évidemment, c'est plus contrôlable. Donc, c'est pas aussi simple que ça, mais quand même, cette idée qu'il y a des valeurs européennes et que peut-être ces valeurs européennes ne sont pas les valeurs universelles. Et donc, me semble-t-il, ça permettrait d'aller vers ce que Souleyman Diane, que j'ai cité, appelle un multilatéralisme latéral, par contraste avec l'unilatéralisme ou le multilatéralisme de surplomb. Comme l'a dit Aimé Césaire, il faut reconstruire l'universel depuis le pluriel du monde. Et dans cette phrase, ce que j'aime bien, c'est le « depuis ». Bien sûr, le pluriel du monde, ça, je pense qu'on arrive tous à le constater, mais ce n'est pas juste qu'on le constate et qu'on va s'adapter. Non, c'est de là qu'on va reconstruire l'universel. Et donc, on aurait un universalisme reconstruit, un universalisme relationnel qui se construirait dans le débat, dans la discussion, et évidemment un universalisme pluriel. Alors, c'est évidemment un peu curieux, mais l'idée, ça serait de ne pas mesurer par rapport à un standard dit universel, mais en fait dicté par cet exceptionnalisme européen, les discours relatifs aux droits de l'homme, tenus en différents endroits du monde, mais au contraire de construire, en acceptant un décentrement, un dialogue entre toutes les traditions et pratiques en matière de droits de l'homme. Comment se fait-il que des siècles d'histoire indienne, chinoise, africaine n'aient aucunement contribué à ces droits de l'homme universels? C'est pas tenable. Et donc, effectivement, ce dialogue ne devrait pas se faire en langue européenne, si je puis dire, c'est-à-dire selon les standards et les valeurs soi-disant universelles, mais accepter qu'il va y avoir une traduction entre la diversité des langues, des cultures et des valeurs. Et évidemment, qui dit traduction, techniquement, dit aussi interprétation. Et c'est là-dedans, dans cet espace, qu'il peut être intéressant de réfléchir. Alors évidemment, c'est un peu dérangeant parce qu'on voit bien qu'on a quand même derrière cette idée d'universel quelque chose de relativement fixe, semblable, et là on aurait un universel pluriel, un pluriversel. Mais je rappelle que même nos collègues des sciences naturelles ou exactes commencent à découvrir qu'un même phénomène peut être observé de deux manières différentes, toutes deux également vraies, notamment quand on est au niveau quantique. Et que donc peut-être, et ça aussi c'est une construction de l'esprit européen, cette idée qu'il y a une vérité unique pour chaque situation, peut-être c'est une idée qui mérite d'être discutée. Alors, évidemment, ce droit de l'homme pluriversel, la vraie question qui se pose à la fin, c'est est-ce que ce processus est un processus qui mettrait en danger la substance même des droits de l'homme ? Ou est-ce que c'est au contraire un processus qui permettrait de revitaliser, de faire adhérer plus largement les différentes composantes de notre humanité à la promotion, la protection et au respect des droits fondamentaux ? Et encore une fois, le degré de ressentiment à l'égard des Occidentaux est élevé, d'où un rejet par certains massif, global, en bloc de ces droits fondamentaux, alors que, me semble-t-il, toutes les traditions, toutes les cultures admettent qu'il y a une volonté, une nécessité pour les êtres humains de vivre la meilleure vie possible, même si après on peut discuter hein, qu'est-ce que c'est que la meilleure vie, et évidemment je ne suis pas étranger à toutes ces... cette littérature indienne, africaine, Solumbutu, et toutes ces façons de se réaliser par la réalisation des autres. Je ne porte pas de point de vue externe là-dessus. Je pense justement que c'est de ce dialogue, de cette pluralité acceptée, qu'on va faire peut-être émerger un nouvel universel. Et qu'il n'est pas certain que ce nouvel universel soit inférieur au niveau actuel, alors pas forcément dans le texte, ça je ne sais pas ce qui en sortirait, mais il faut regarder aussi ce que c'est que la protection effective des droits fondamentaux. Et malheureusement, ici en France, moi qui vis en Suisse, nous sommes privilégiés, mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où, quel que soit le contenu de la Déclaration universelle, des pactes, en voulez-vous, en voilà, les travaux de l'ONU, les gens ne jouissent pas, effectivement, des droits fondamentaux. Et donc, pour terminer, j'aimerais risquer une métaphore. Alors, elle a un gros défaut, c'est qu'elle vient d'une expérience européenne, mais après tout, peut-être qu'il y a aussi, dans la tradition et la culture européenne, des éléments qui méritent d'être utilisés dans ce dialogue des cultures pour réuniversaliser les droits fondamentaux. Et donc, je me permets de me référer à l'histoire de la musique. C'était la musique, une de mes passions de jeunesse. Et dans la musique occidentale, on a évolué hein, à partir d'un chant monotone à la polyphonie et même à l'harmonie. Alors, je vous laisse sur cette métaphore pour réfléchir à ce néo-universalisme des droits fondamentaux. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.